Sommes ici côte à côte parce que des hommes sont morts. Plus que jamais, dans la phase présente d'exploitation de nos gisements et particulièrement dans les zones d'exploration, le devoir absolu de tous est de tout faire pour réduire les risques autant que le permettent les progrès de la recherche, les améliorations techniques et la concertation quotidienne avec les travailleurs eux-mêmes. Je vous dis que toute la lumière sera faite sur les conditions dans lesquelles la catastrophe de la fosse 3 s'est produite. Je vous dis que toutes les conséquences en seront tirées. Tout a changé depuis 30 ans, c'est vrai. Mais aujourd'hui, comme il y a 30 ans, l'effort des hommes de la mine est une partie essentielle de l'effort du peuple français. Cela, vous savez tous que chaque Français le sait.
Voilà, on a entendu Jacques Chirac lors de la commémoration suite à cette catastrophe à Liévin en 1974. Jacques Chirac était Premier ministre. Alors à la fin, il dit la lumière sera faite sur cet événement et tout sera mis en place pour que ça ne se reproduise plus, pour comprendre ce qui s'est passé. Un discours qui, dans les actes, ne s'est pas révélé vrai. Pas surprenant de la part de Chirac, peut-être, mais bref. On avait dit l'autre fois, cette catastrophe de Liévin, donc la fosse numéro 3 à 3 bis qui explose et qui causera la mort de 42 mineurs. C'est une catastrophe la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale, la plus grave catastrophe dans un bassin minier, depuis Courrières, une catastrophe qui avait eu lieu en 1906 et déjà dans le Nord-Pas-de-Calais. On va revenir plus tard sur Courrières. Donc 74, terrible coup de grisou à Liévin, 42 morts. La cause ? Bah en fait, il n'y a aucune enquête sérieuse qui digne de ce nom qui sera faite.
Enfin, si, il y a quand même le juge Michel qui va descendre au fond.
Ouais.
Le petit juge Michel. Et il va tenter, en fait, de rassembler des éléments. Parce que, en fait, bien souvent, les gens disent c'est la fatalité, c'est le destin des mineurs. Et en fait, on s'aperçoit que les galeries sont mal entretenues, on les arrose pas suffisamment. Il y a beaucoup de poussière. Donc, en fait, le coup de grisou s'accompagne d'un coup de poussière. C'est la mise à feu, en fait, de toutes les poussières en suspension. Et c'est ce qui crée, en fait, le plus de morts. Et c'est ce qui provoque le plus de morts dans les galeries. Donc, il n'y a pas de fatalité. Il y a simplement un contournement des mesures de sécurité pour accroître le rendement de la production du charbon. Et, par exemple, pour le cas de Liévin, c'était un feu qui dormait dans une galerie annexe. On savait qu'il y avait un feu qui était sous les braises et qui était actif et qu'il fallait certainement pas faire descendre les mineurs à ce moment-là, et on les a fait descendre. Et donc il n'y a pas de fatalité, il y a simplement un accident industriel dû à l'incurie des gens qui sont à la tête de la mine et qui veulent du rendement avant tout, quitte à prendre des risques.
Ouais, une incurie, il n'y a pas de fatalité, surtout que, comme tu l'as dit, dans cette mine-là, on savait depuis longtemps qu'il y avait des insuffisances, des choses qui n'allaient pas dans les conditions d'exploitation de la mine. Des mineurs eux-mêmes faisaient monter des informations depuis des semaines et des semaines. Alors, certains ne voulaient plus monter, descendre. Donc voilà. Qui sont les responsables? Comment on appelle cette compagnie? Je ne sais plus, c'est les Charbonnages de France ou...
Oui, c'est les Charbonnages de France. Dans le Nord, je ne me souviens plus, la compagnie des Charbonnages du Nord, peut-être, ou je ne me souviens plus du nom de cette grande compagnie. De toute façon, les charbons ont été privatisés par De Gaulle en 1946, hein, faut pas l'oublier. Donc voilà, c'est des grandes compagnies. Il y a encore un secteur privé qui subsiste, hein, pour Liévin, je ne sais pas exactement, mais nationalisées en 1946 par De Gaulle sur son premier grand plan charbon pour la reconstruction de la France, hein, parce que le charbon, c'est la production d'électricité, et c'est aussi ça, c'est la première vocation du charbon,
l'énergie
en premier lieu. Et ensuite, la fabrication, eh ben, tout, de la sidérurgie, hein, à haute teneur en carbone, la houille, la lignite, elle sert à la production d'acier dans les hauts fourneaux. Elle sert de carburant, mais aussi de composant, en fait, pour l'acier.
Je vais lire un passage du livre du jour d'avant de Georges Chalandon. Ce livre-là, il l'a écrit en 2017 et il revient. C'est un roman incroyable hein, qui va suivre le frère d'un mineur. L'histoire, c'est le frère d'un mineur qui son mineur meurt la veille de cette catastrophe. Le frère se sentant coupable de la mort de son frère. Va s'inventer une autre histoire et va dire que son frère est mort dans la catastrophe. En fait, on va se rendre compte, je vais pas raconter tout le roman, c'est pas possible, que il aurait pu mourir de façon, comme beaucoup de mineurs, bon, comme beaucoup de travail dans les mines. En fait, sûrement, il serait mort s'il était parti travailler ce matin-là. C'est un roman incroyable. Je vais lire un passage, c'est un procès parce que, au final, en fait, à un moment, il y a un procès du personnage principal qui a tué un porion. Alors, un porion, c'est quoi ? C'est un chef d'équipe, c'est ça ?
Oui, un chef d'équipe.
C'est un chef d'équipe des mineurs qui descendaient. Le protagoniste principal du roman décide pour venger son frère, pour venger sa famille, le terrible destin de son frère, le terrible destin de sa famille qui s'en est suivi, son destin à lui qui a été marqué à jamais. Il décide de tuer le porion qui est pour lui le responsable direct, qui a fait descendre les mineurs, qui les a mis sous pression, et du coup il décide de le tuer. Il rate son coup, tant mieux. On souhaite pas la mort de personne, surtout par homicide, bref. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que le porion, ce chef d'équipe, lui-même, va avoir une révélation suite à cette tentative d'assassinat fait sur lui. Et il va raconter que, en fait, cette catastrophe qui s'est passée. Il y a 42 ans, là, lors de son procès, l'a marqué à vie. Et voilà ce qu'il dit. J'ai toujours su que le 27 décembre 1974 me rattraperait. Pendant 40 ans, nuit et jour, j'ai attendu la vengeance des mineurs de Saint-Amé. Mes gars, monsieur le président. 42 garçons sont restés au fond par ma faute. J'étais responsable de leur sécurité et je passais mon temps à leur dire « Si on fait trop de sécurité, on ne fait pas de rendement. » Le rendement... Les économies, c'était l'obsession de la compagnie. Une politique brutale imposée à tous. Aux chefs de siège, aux directeurs de la mine, aux ingénieurs, aux chefs porions, aux porions, aux surveillants, aux chefs de coupe, aux chefs de carreau. Au nom du rendement, nous demandions aux hommes de faire plus que ce qu'ils pouvaient. À la fin de leur poste, pour quelques francs supplémentaires, nous les poussions à faire du rabiot, à creuser encore quelques mètres de veine. Au nom du rendement, j'étais devenu une sorte de petit caporal. Je surveillais mes gars comme une bande de tirs au flanc. Je voulais que les marteaux-piqueurs ne s'arrêtent jamais. J'engueulais celui qui perdait du temps à mettre ses gants de sécurité ou à ajuster des bouchons d'oreilles. Je félicitais celui qui enlevait son masque parce qu'il l'empêchait de respirer. « Tu n'es pas un galibot, toi, au moins !» Pour faire des économies en temps et en personnel, les ventilations, les tafanelles, les moyens de protection n'avaient pas été convenablement vérifiés. Lorsque les hommes sont redescendus, le 27 décembre, après 5 jours de congé, le fond n'avait pas été arrosé. L'air était saturé de poussière de charbon. Le grisoumètre n'était pas en activité. Un gazier sur deux avait été supprimé par la direction. Un seul homme restait pour effectuer les relevés manuels et la galerie 6 sillons n'entrait pas dans son parcours de contrôle. Le matin de l'accident, sa ronde avait même été supprimée. Et c'est là qu'a eu lieu l'explosion. Le 27 décembre 1974, à 6h19. C'est là que 42 personnes ont été tuées par la mine. Le rendement et le souci d'économie. Ce drame n'a rien à voir avec la fatalité, il aurait pu être évité. De la direction des charbonnages de France au plus humble des surveillants, nous en sommes tous responsables. Et jamais personne n'a vraiment été jugé pour cela. La mine n'a aucune pitié pour l'homme. La mine a toujours guetté l'ouvrier. Elle lui a tendu des embuscades. Un jour, un madrier s'écroule. Le lendemain, un bloc se détache. Une galerie s'affaisse. Un wagonnet s'emballe. Un câble cède. Une lampe explose. Ce ne sont pas des catastrophes, seulement des accidents dont on ne parle pas. C'est lorsque la mine les tue qu'on se souvient qu'il y avait des mineurs. Un boiseur écrasé par sa charge, un naveur broyé par sa machine, un rouleur écrasé par sa berline. Lorsqu'il remonte au jour, le mineur n'est qu'un survivant. Même s'il est décrassé, il rapporte le charbon en surface. Il lui en reste dans les cheveux, dans le nez, au coin des yeux, entre les dents. La mine a pris la place de l'air dans ses poumons. Le mineur n'est pas mort, non, mais il sait que la mort l'attend. Voilà, tout est dit.
Oui, oui, c'est vrai.
Alors, si on parle des mines, c'est parce que c'est assez exemplaire d'une industrie capitaliste féroce qui va tuer les hommes et les femmes au travail. L'histoire de la mine, c'est un peu le paradigme de l'industrie depuis le 19e siècle. Hein, et les catastrophes sont innombrables. Alain, je te laisse la parole, peut-être pour parler d'autres catastrophes aussi oubliées.
Et d'autres régions aussi, parce que quand on parle de charbon, en fait, on pense toujours au département du Nord. Alors, c'est alimenté par Germinal, de Zola, on a tous en tête le roman. Mais des gisements de houille, en fait, et on avait partout sur le territoire français, des mines de charbon de toute taille, dans la Creuse, en Rhône-Alpes, en Auvergne. Un petit peu partout, en fait, il y avait des galeries de mines. Alors, pour changer les corons du Nord, moi, j'avais envie de parler de BHL. Alors, pas de l'imposteur en chemise blanche, non. Du bassin houillé de Lorraine. Alors ça, c'est la région de Forbach, Bérenne, Saint-Avold. C'est le gisement de houille de Sarrebruck, en Allemagne. Alors, il se prolonge jusqu'en France. Et puis, on a une exploitation qui commence, comme toute l'exploitation en fait, des charbonnages, vers 1850. Elle prend son essor sous l'administration allemande après la guerre de 1870, quand ils annexent la Moselle. Donc, on est en Moselle vers Sarrebruck, la région de Forbach. Et puis ensuite, ce sera la nationalisation des mines en 1946, après la Seconde Guerre mondiale par De Gaulle. Et puis l'exploitation du charbon, là, va aussi se solder par des catastrophes. En 1925, le 26 mars, par exemple, c'est le bassin minier qui est affecté par sa première grande catastrophe à Remaux. Ça, c'est à côté de Forbach. C'est près du puits Wouters. À Merlin, à Frémin-Merlebach, si on veut être précis. Après 3 mois de mise en service, donc le 26 mars 1925, c'est la cage qui conduit les mineurs aux étages inférieurs qui chute, qui se décroche et qui tombe au fond du puits et qui tue 56 mineurs. Alors là, c'est pas un coup de grisou, c'est simplement des gens qui sont aplatis par la chute de leur ascenseur, de leur cabine dans un puits de mine. Donc 56 morts en 25. Ensuite, plus près de nous, tu avais parlé la dernière fois justement de la catastrophe de Liévin, des 42 morts. Mmh. Mais en 1976, à Frémin-Merlebach, au puits Wouters, à moins 1036 mètres de profondeur. Les profondeurs sont énormes hein, dans ce bassin houillé de Lorraine. Et Wouters, c'est le record d'ailleurs de profondeur d'une mine de charbon en Europe. Elle descend jusqu'à 1325 mètres. Eh bien, à moins 1036 mètres, hein, le 30 septembre 1976, c'est 16 morts. Alors, 16 morts, coup de grisou, coup de poussière, brûlés. Et puis la mine, eh ben, ça sera leur tombeau en fait. Parce qu'on va refermer les galeries où les corps des mineurs gisent, en fait, victimes du grisou, pour priver d'oxygène le feu, pour l'éteindre, faute de comburant. En fait, là, c'est tragique parce qu'ils ne peuvent pas remonter les corps, donc les familles restent sans le corps du mineur. Et puis, la mort du mineur, c'est quand même mourir au travail, c'est peut-être une vision d'horreur, hein, la plus totale, c'est mourir dans une tombe, c'est mourir sous terre, sans passer par la case ciel bleu, ne serait-ce qu'un instant, là, pour une dernière bouffée d'air frais. Non, on est au fond de la mine et on y meurt. En 83, c'est la relance sous Mitterrand du plan charbon, du deuxième plan charbon, après le premier sous l'égide de Charles de Gaulle en 46. Donc en 83, c'est une relance du plan charbon. Et puis il y a les NET, les nouveaux emplois tardifs. Alors ce sont des jeunes formés à la hâte, malgré les mises en garde des syndicats. La tonne de charbon, elle est subventionnée, elle coûte cher à la production. On contourne donc les mesures de sécurité allègrement pour accroître la production. Et le 25 février 1985, c'est le puits Simon à Forbach qui s'endeuille. Il y a 22 morts. C'est la dernière grande catastrophe minière en France. On est à moins 1050 mètres. Coup de grisou, coup de poussière. Le cocktail typique de la tragédie minière, Courrières, Liévin, enfin... Toujours le même cinéma, les galeries non entretenues, pas suffisamment arrosées, sont poussiéreuses. Ils les arpentent dans un brouillard de poussière, les mineurs, qui s'enflamment à la moindre explosion de gaz. C'est ça qui tue les hommes, comme à Liévin. Résultat, j'ai parlé des NET, des nouveaux emplois tardifs. Parmi les 22 morts, il y a 3 jeunes de 19 ans et la moitié des mineurs à moins de 25 ans.
Ouais. Alors, la liste serait longue hein, des catastrophes et des accidents dans les mines. Nous, on parle de ça parce que je resitue l'espèce de projet que j'ai dans cette émission, c'est de parler des morts invisibles. Et la mort au travail, souvent, est invisibilisée dans notre société capitaliste, néolibérale. Donc la liste est très longue. On a évoqué Courrières, on en dit quelques mots et après on va écouter, on va faire une petite pause musicale. Je vous présenterai parce que la chanson qu'on écoutera a un lien avec le contenu de quoi on parle. Courrières, donc énorme catastrophe au début du siècle en 1906 qui a fait 1099 morts. Donc là, on est vraiment dans une catastrophe spectaculaire incroyable. C'est la plus importante catastrophe minière d'Europe. C'est la deuxième plus importante catastrophe minière après celle qui s'est passée en Chine en 1942 qui a fait 1549 morts. Il y a quelque chose d'important qui va se passer avec Courrières, politiquement, socialement. Il y a des grandes grèves à ce moment-là. Suite à ces grèves, les mineurs obtiennent le repos hebdomadaire. Et oui, ils ne l'avaient pas jusque-là. C'est à cause de cet accident terrible qu'on accorde le repos hebdomadaire aux mineurs. Il y a quelque chose de très important qui va marquer, on peut dire, l'histoire sociale de la France aussi. C'est qu'à partir de cette catastrophe-là, il y a une grande immigration maghrébine et surtout kabyle au nord de la France, dans la région de Lens, Roubaix.
Il y a beaucoup de Polonais aussi, beaucoup d'Italiens.
Beaucoup avant... de Polonais, mais qui étaient déjà là, qui étaient venus un peu avant, 19e, fin 19e. Là, l'immigration kabyle en particulier, algérienne, va vraiment commencer à ce moment-là. Et elle va avoir une importance par la suite, jusqu'à aujourd'hui, dans cette région-là. On fait venir les étrangers en France pour les exploiter. Hein. Voilà. Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. D'intéressant, c'est terrible, vous allez voir. La langue française s'est enrichie par la catastrophe de Courrières. Il y a un nouveau mot qui est, quoi, en tout cas, il existait, mais il a pris un développement. C'est le mot rescapé.
Ah, d'accord.
Ouais. Suite à cette catastrophe, le mot rescapé est devenu un mot qui s'est mis à être courant. Ce qui n'était pas le cas, on utilisait un autre mot, je ne sais plus lequel. Mmh. On va écouter du coup une chanson...
Un petit détail. Tout à l'heure, tu as parlé du galibot. Le galibot, oui. C'est le jeune, c'est l'adolescent, 12 ans, 10 ans, quelquefois moins, qui travaille au fond des mines. Et à Courrières, il y avait beaucoup d'enfants qui travaillaient dans les galeries. Et après Courrières, on les a cantonnés dans des métiers en surface, de tri, comme c'est décrit d'ailleurs dans Germinal, sur le carreau de la mine. Mais à Courrières, il y a beaucoup d'enfants qui ont péri dans la catastrophe parce qu'on les embauchait aussi dans les allées principales. Et Courrières, ça a été une suite d'explosions incroyables. Tous les chevalements ont été détruits sur une grande longueur. Le feu s'est propagé, l'explosion, le coup de grisou, sur plusieurs kilomètres. Et c'est plusieurs puits qui ont été affectés. Et la détonation s'est entendue à des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Ça a été vraiment une catastrophe majeure.
Mmh. On va faire une petite pause musicale avec un morceau de Bernard Lavilliers, qui parle en fait du travail ouvrier, du travail à la mine. Ça s'appelle Fench Valley. Tu peux en dire quelques mots?
Oui, c'est simplement en fait la vallée de la Fench, c'est dans le nord, c'est comment ça s'appelle, nord-est. Et puis là, on est sur le bassin sidérurgique. Hein, on est dans les hauts fourneaux, les laminoirs, ArcelorMittal ensuite. Enfin, toutes ces grandes compagnies. Et là, on est dans le fer. Et le fer qui est l'allié en fait du charbon, le copain inséparable du charbon. C'est le coq qui fait tourner les hauts fourneaux. C'est le coq qui sert à la fabrication des aciers, hein, qu'on va produire dans le Nord. Donc ça, c'est une chanson Fench Valley par Bernard Lavilliers qui raconte les ouvriers de la Fench.
On écoute ça et on revient.
Viens petite sœur au blanc manteau, viens c'est la balade des copeaux. Viens petite girl in red blue jean, viens c'est la descente au fond de la mine. Viens donc grand shooter du désespoir, viens donc visiter mes laminoirs. Viens donc chevaucher les grands rouleaux et te coincer la tête dans un étau. Viens petite femme de Saint-Tropez, nous on fume la cam par les cheminées. Et si le bonheur n'est pas en retard, il arrive avec son gros cigare. Viens dans ce pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur mes bras comme tout ce décor. Pour tout leur pardonner et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la vie. Viens petite bourgeoise demoiselle, visiter la plage au devin d'elle. Ici pour trouver l'Eldorado, il faut une shooteuse ou un marteau. La vallée de la Fench, ma chérie, c'est le Colorado en plus petit. Y'a moins de chevaux et de condors, mais ça fait quand même autant de morts. Belle femelle de métal, je t'invite dans mon carnaval. Ici la cadence c'est vraiment trop, ici y'a pas de place pour les manchots. Viens dans mon pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur mes bras comme tout ce décor. Pour tout leur pardonner et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la vie. Tu ne connais pas mais t'imagines, c'est vraiment magnifique une usine. C'est plein de couleurs et plein de cris, c'est plein d'étincelles surtout la nuit. C'est vraiment dommage que les artistes qui font le spectacle soient si tristes. Autrefois il y avait des rigolos, ils ont tous fini dans un lingot. Le ciel a souvent des teintes étranges, le nom des patelins se termine par ange. C'est un vieux pays pas très connu, y a pas de touristes dans les rues. Viens dans mon pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur ma peau comme tout ce décor. Pour tout leur pardonner et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la vie. Viens petite sœur au blanc manteau, viens c'est la balade des copeaux. Viens petite girl in red blue jean, viens c'est la descente au fond de la mine. Viens c'est la descente au fond de la mine.
Voilà, on peut saluer tous les Lorrains qui sont à l'écoute peut-être pour cette chanson, parce que c'est la Lorraine, la Fench, voilà. Si on veut élargir en fait et sortir du cadre franco-français de la mine de charbon, parce que la mine de charbon en fait c'est mondial, hein. Tu as parlé brièvement de la catastrophe de Benchy, où oui. Alors ça c'est le record, hein. C'est le record de la catastrophe minière, 1500 morts.
549, 1549 exactement.
Ah oui, 1549. Et c'est en 1942, si mes souvenirs sont bons.
Exact.
C'est en Chine. Alors, 1942, la Chine, elle est sous administration japonaise. Donc déjà, les mineurs sont chinois. Les Japonais qui sont à la tête de la mine, c'est pas des Japonais, hein, donc c'est des Chinois. Et en fait, ce qui se passe, coup de grisou typique, les mineurs sont en bas, il y en a qui essayent de survivre, il y a des survivants bien sûr. Et là, pour préserver les intérêts de la mine, l'administration japonaise coupe l'oxygène pour pas alimenter le feu, pour préserver les galeries. Et là, ça tue à coup sûr tous les mineurs qui pensaient pouvoir peut-être remonter à la surface sains et saufs. Ça, c'était leur arrêt de mort. Donc, c'est ce qui a créé ce nombre hallucinant de morts, 1500 morts. C'est 500 morts de plus que Courrières, quoi. Mais on est sur des échelles complètement délirantes. Alors ça, c'est la Chine. Moi, j'ai eu la chance, en fait, de visiter des mines au cours de ma vie. J'ai visité les mines de Lorraine. Il y a un musée Vindel, par exemple, à la Petite Rosselle, qui est vraiment très intéressant, qui explique la mine. J'ai visité aussi des mines de fer. Et puis, j'ai visité des mines de Potosi. Alors, les mines de Potosi, on est en Bolivie. On est à 4000 mètres d'altitude.
Juste avant que tu te lances, moi, j'aimerais juste situer, tu l'as dit un peu au début, mais tout cette exploitation minière de la terre, de ce qu'il y a sous terre, c'est un phénomène, tu l'as dit, mondial, en Asie, là en Amérique, en Europe, qu'il faut bien lier avec ce développement féroce, colonial du capitalisme.
Tout à fait.
On est dans cette optique-là. Hein.
Bien sûr.
Voilà, c'est tout.
Issu de la révolution industrielle, on peut parler aussi des mines de charbon de Haïphong dans le nord, dans le Tonkin, au Vietnam, sous administration française. Hein, et les charbonnages, c'est aussi dans les colonies françaises. Enfin, tout est lié, quoi.
Mais juste quand tu parles de la Bolivie, du coup, on parle aussi d'un coin de la Terre qui a été colonisé par les Européens.
Par les Espagnols.
Par les Espagnols. Et qui ont commencé là à exploiter tous les minéraux et tous les métaux qu'ils trouvaient là-bas.
Oui, alors.
C'est la prémisse de l'industrie minière qu'on appelle aujourd'hui extractivisme. Il y a ce mot qui est apparu là, extraire toutes les matières de la Terre, comme les shadows qui vont pomper sans arrêt jusqu'à tuer la terre.
Mmh. Alors pour ce qui concerne les Espagnols, ils arrivent avec la soif de l'or, on connaît tous, l'Eldorado, les choses comme ça, leur paillage dans le nord, et puis ils tombent sur un gisement fantastique. On est en Bolivie, on est au XVIe siècle, et là c'est une montagne d'argent, mais littéralement, hein, moi j'ai été visiter le lieu, c'est une colline hein, qui culmine à plus de 4000 mètres, hein, au-dessus d'un village qui s'appelle Potosi, et c'est une mine d'argent en fait la plus riche du monde. En fait, elle s'appelle le Cerro Rico, la colline riche. Alors, elle est fantastique, hein, cette colline plantée à 4000 mètres. Là, elle est truffée de galeries. L'exploitation commence au XVIe siècle. Le petit village de Potosi, qui est un petit village andin, il se transforme en une ville incroyable de 200 000 habitants. On y compte 4 théâtres, un opéra. Il fait la richesse des Espagnols et puis la misère des mineurs andins qui meurent par millions. Il y a une expression d'ailleurs, es un potosí, ça veut dire c'est une véritable mine d'or, c'est une affaire, c'est une expression qu'on emploie en Espagne à l'époque pour désigner cette bonne affaire, l'argent, hein, se faire vraiment des gros bénéfices, hein, pour rester poli, et une expression qu'on trouve dans le Don Quixote en 1610, donc ça se diffuse très très vite, hein, cette histoire de Potosi. Nous on dit par exemple c'est le Pérou, hein, ou c'est pas le Pérou quand c'est la pauvreté, quoi. Et ça vient de ces gisements fabuleux d'argent de Potosi. Alors, ça va alimenter en devise l'Espagne du siècle d'or, avec les mines aussi au Mexique, de Zacatecas ou Taxco au Mexique. Alors, on dit qu'avec l'argent extrait à Potosi, on aurait pu construire une route reliant Potosi à Madrid, tout en argent. Et Eduardo Galeano, hein, l'écrivain uruguayen, dans les veines ouvertes de l'Amérique latine. Il ajoute avec malice qu'on aurait pu aussi, avec cette route en argent, on aurait pu de chaque côté faire deux jolies barrières toutes blanches avec les ossements des Indiens morts au fond de la mine. Et après avoir pillé tout l'argent du Cerro Rico, il reste presque plus rien. Le Cerro Rico qui culminait à 4300 mètres, il a baissé à peu près de 50 mètres en son sommet, tellement qu'on a pillé ses ressources. Donc il a baissé d'altitude. Et puis on va faire nouveau fortune à Potosi grâce à un métal qu'on avait dédaigné, qu'on avait laissé compter, qui était amalgamé un petit peu à l'argent. C'est l'étain. Et l'étain, ça va servir à fabriquer les obus de la Seconde Guerre mondiale. Et ça va faire la fortune de Patigno, d'un homme, le roi de l'étain. Et si on veut plus de renseignements là-dessus, sur cette activité, cette seconde activité minière de Potosi, il faut lire « El metal de Diablo ». Del Diablo, le métal du diable, hein, des Augusto Céspedes. Alors Augusto Céspedes, j'ai eu la chance de lire ses livres. C'est un écrivain pas très connu, c'est un écrivain bolivien. C'est l'auteur aussi de Sangre de Mestizos, qui raconte la guerre entre le Paraguay et la Bolivie, la guerre du Chaco. Et c'est un grand livre sur la mine, en tout cas, et sur la mine d'étain. En parlant de mine, il y a aussi une autre mine qui est moins connue que Zacatecas, des mines d'argent de Taxco, des mines d'argent de Potosi qui luisent, hein, véritablement avec ce métal précieux. Non, à Huancavelica, au Pérou, là, on exploite le mercure. Alors, c'est la mina de la muerte, elle porte bien son nom, c'est la mine de la mort. On exploite du mercure parce que le mercure, il sert à l'amalgame de l'or, à l'exploitation de l'or. En fait, le mercure, il se fixe à l'or, ça devient lourd, ça descend au fond de la batte ou au fond du système qu'on a pour exploiter l'or. Ensuite, on brûle le tout, donc on se débarrasse du mercure et il nous reste l'or qui s'est collé à ce mercure-là. Alors le mercure, on connaît tout de suite ses vertus un petit peu nocives, létales même, je dirais bien. C'est la catastrophe de Minamata au Kyushu, au Japon. Enfin, le mercure, c'est affreux. Ce sont des gaz nocifs qui tuent les mineurs en quelques années. Il meurt dans des souffrances liées au mercure, c'est-à-dire atteinte du système nerveux, tremblement, et puis la mort inévitable. Au bout de 8 ans d'exploitation dans les mines de Huancavelica, on y meurt, quoi. Et puis c'est irrémédiable. Alors ça aussi, c'est des passages des veines ouvertes de l'Amérique latine d'Eduardo Galeano. Alors donc, voilà, moi, ce que je connais, j'ai pu visiter Huancavelica. Elle ne se visite pas, elle est fermée. À l'époque où j'y suis passé, il n'y avait personne. Non, il y avait pas. Elle s'était abandonnée. Puis, il y avait ce blason espagnol qui rappelle la domination coloniale de l'Espagne. Et puis, des mines de mercure où tant d'Indiens sont morts, en fait, par les émanations toxiques des vapeurs. Elles sont fermées, ces mines. Moi, j'ai eu la chance de pénétrer dans la galerie sur 100 mètres. Je n'avais pas de lumière. J'ai dû rebousser chemin. Maintenant, elles sont fermées parce qu'il y a tellement d'émanations gazeuses. C'est vraiment dangereux de les visiter. Mais Huancavelica, c'est une petite ville du Pérou. À côté de Huancayo, on culmine à 4000 mètres. On peut voir les conditions horribles. D'ailleurs, on image de la coca, hein, dans ces mines-là, pour filtrer un petit peu l'air vicié et puis se donner de la force, parce que la coca, en mâchant en fait les feuilles de coca, on se donne de la force.
Je te remercie beaucoup, Alain, là, pour tout ça. C'est très important d'avoir resitué ça aussi avec la colonisation, la mort des Indiens, etc. Tout est lié. Faut pas oublier que l'industrie minière existe toujours, l'extractivisme existe toujours. Et les gens qui y travaillent sont dans des conditions terribles. Je vais vous parler d'un truc qu'on connaît très très mal. C'est sur la fabrication des smartphones. J'ai lu un livre d'Éric Sadin, ça s'appelle « La silicolonisation du monde, l'irrésistible expansion du libéralisme numérique ». C'est très très intéressant parce qu'il va aller chercher... le côté invisible, tout ce qui est caché de cette exploitation numérique pour fabriquer des smartphones, pour fabriquer tous les outils qui nous semblent là, ça nous semble très facile de les utiliser. Ben en fait derrière, il y a une industrie ouvrière minière bien pourrie. Et dans ce livre, à un moment, il va parler d'un, je vais vous lire l'extrait. Voilà. Il va nous parler du Loupen prolétariat du numérique, de ces esclaves, quasi-esclaves, qui travaillent dans l'industrie numérique. Là, qui travaille, en l'occurrence, il va parler d'un groupe taïwanais qui s'appelle Foxconn, groupe en fait qui fabrique des smartphones, qui travaille pour Apple, pour Samsung, pour des gros trucs comme ça. Voilà ce qu'il dit. Les environnements sanitaires sont généralement déplorables. Donc là, c'est aujourd'hui, hein. Là, c'est en 2024. Hein. Exposant dans certains cas les travailleurs au N-hexane, nommé banana oil, substance chimique ayant entraîné des empoisonnements suivis de séquelles neurologiques. Selon les médecins de l'hôpital de Guangzhou, en Chine, rien dans le monde ne produit plus de dégâts sur le corps que ces inhalations toxiques quotidiennes. En août 2015, Samsung a été contraint de créer un fonds de 78 millions d'euros destiné à indemniser les employés de ses usines, dans lequel avaient été décelés plus de 200 cas de leucémie. Je fais le rapport avec la mine, parce que ce produit N-hexane, c'est un solvant qui sert à nettoyer les écrans, des smartphones, des ordinateurs, etc. Il est issu d'un hydrocarbure, c'est un dérivé du pétrole. Vous allez me dire, c'est quoi le lien avec la mine? Bah, le pétrole, par essence, c'est la matière la plus exploitée depuis 150 ans par le capitalisme. Voilà. Et on parle d'exploitation de gisements de pétrole, on va fouiller la terre. C'est une industrie minière. Voilà. C'est une industrie. Comment on appelle cette industrie? Je ne sais plus, les industries des hydrocarbures.
L'industrie pétrolifère.
Ouais, non, mais il y avait un mot que j'avais en tête pour venir analyser.
Pétrochimie aussi.
Ouais, bon bref, ça va me revenir. Donc on est dans un extractivisme terrible. Hein. Voilà, et c'est aujourd'hui que ça se passe. Tout ça pour dire qu'on a jusque-là dans l'émission, on a parlé vraiment de catastrophes. Tu as évoqué un autre aspect que ces événements tragiques que sont les explosions, les coups de grisou, etc. Tu l'as évoqué un moment, quand tu racontais Potosi, etc. C'est la mort lente, c'est la mort à petit feu, l'empoisonnement à petit feu. Les ouvriers, les ouvrières ont respiré pendant des années, parfois une année hein, suffit, et vont s'empoisonner à petit feu et vont mourir. Il ne faut pas oublier ça aussi. C'est ça aussi la mort invisible. On va écouter on va faire une pause musicale et on va revenir. On va essayer d'aborder ce sujet-là. On va écouter Colette Magny qui nous chante une chanson qui s'appelle La pieuvre. Superbe Colette Magny. Ouais, on revient après.
Le bain, c'est fini maintenant. Nos ouvriers ont du temps. À 4 heures le matin, j'ai pu admirer les étoiles. Je travaille en 4-8 à la Rodiaveta. Mardi, mercredi, 4h-12h. Jeudi, vendredi, 12h-20h. Samedi, dimanche, lundi, 20h-4h. Repos jusqu'au jeudi matin. Juste le temps d'effacer la fatigue pour retourner au travail plein d'entrain. Merci Pondroulac, Trust de la chimie, premier groupe financier français, c'est grâce à toi qu'on peut s'embourgeoiser. Un dimanche sur quatre toute l'année, à la Rodiaveta. Merci Sondroulac, Trust de la chimie, t'as baptisé nos usines avec des noms de fusées, des noms de vins capiteux. Lyon-Vaise, Gorge de Loup, Belle Étoile. étoiles s'infondent, péage de Roussillon. Mais derrière les hauts murs de la Rodia Beta, dans des locaux fermés, éclairés au néon, la lumière la plus proche de celle du soleil, comme dit le patron. En travaillant feu continu, à plus de 30 degrés et 70% d'humidité, on devient tous nerveux. Nos ulcères fleurissent, nos ulcères s'épanouissent à la Rodia Beta, à la Rodia Beta.
On reprend l'antenne. Du coup, on va essayer d'aborder. Bah, on va l'effleurer. On reviendra. J'y reviendrai dans d'autres émissions. Cet autre aspect qui est la mort à petit feu, la mort lente. Puisque bon, les coups de grisou, les catastrophes terribles, là, c'est spectaculaire. On va avoir des discours bien pensants, des hommes politiques. Chirac va faire son petit tour et il s'en va. Il y a un autre aspect qui est ce qu'on appelle la mort lente. On va commencer juste là, on va pas creuser. Il y a un passage du jour d'avant, Alain, que je te demande de lire là. Mm-hmm. Parce qu'en fait, la mort lente, c'est quoi? C'est la condition ouvrière. C'est les gens qui sont dans des conditions de travail terribles, qui s'empoisonnent, qui se font mal. Et voilà.
Et qui profitent pas de leur retraite quand ils y arrivent. Alors, merveilleux roman de Serge Chalandon, Le jour d'avant, hein, comme nombre de ses romans, hein, d'ailleurs, j'invite tout le monde à lire ses romans, parce qu'ils sont vraiment extraordinaires. Ils sont nourris aussi de son activité de journaliste. Hein, il était à Liévin, je crois. À Liévin, bien sûr. Il a travaillé sur Liévin. Donc voilà un extrait du jour d'avant de Serge Chalandon. Papa a quitté des yeux sa tasse de chicorée. Il a pointé sa cuillère vers leur portrait de Philippe Flavan, son frère, tué à la fosse numéro 3, victime du grisou avec 10 copains, parce que les salopards de surface avaient exigé qu'ils accélèrent la cadence. Depuis des jours, lui et les gars se plaignaient de la poussière. Mais les ingénieurs leur avaient demandé d'augmenter le rendement. Il fallait que la taille atteigne 2,50 m par poste. Alors les mineurs ont été contraints au rabiot et à l'imprudence. Le bout de feu a allumé ses explosifs sans respecter les consignes de sécurité. C'est comme ça que ton oncle est mort. Mon père regardait son grand-fils. Il laissait de longs silences ajoutés à l'émotion. Il buvait son jus de racine, parlait entre deux gorgées tièdes. Mourir pour le profit de la compagnie nationale des houillères? C'est ça que tu veux, Jojo? Crevé comme ton oncle à 21 ans, les lunettes coulées sur le visage et les doigts soudés par la chaleur, sué dans les entrailles de la terre pour engraisser les planqués du carreau, passer tes jours à percer la nuit, c'est ça ton rêve, mon fils? Et si tu tombes à la fosse, t'auras gagné quoi? Qui te rendra hommage? Deux écharpes tricolores venues d'une autre ville? Un sous-ministre arrivé de Paris, un discours honteux sur le mauvais sort, trois fleurs payées par le syndicat et une garde d'honneur de copains qui n'oseront même pas regarder votre pauvre mère en face. Voilà pour l'extrait.
Voilà. Donc c'est le père qui parle à son fils qui vient de lui annoncer qu'il allait bosser à la mine. Il lui raconte ce qu'on vient d'entendre. On va écouter juste un petit extrait. Et voilà, il y a Macron, notre cher président, a fait un petit tour à Liévin il y a 2 ans. Je pense que c'est un passage obligé pour tous les présidents d'aller se rendre pour commémorer. Il y a un monument à Liévin, etc. Écoutez ce petit extrait. Il y a une femme, fille d'un mineur, qui va lui parler. Écoutez et on revient.
Monsieur le Président, je vais vous dire, je vais me permettre, excusez-moi de monopoliser, quand mon père a été accidenté, mon père a été marqué par le charbon. Mon père, et bien sûr, ils se sont occupés d'autres choses avant de s'occuper de son visage, et le charbon était incrusté dans sa peau. Mon père ressemblait à un singe, il l'a dit lui-même, il hurlait quand il se regardait dans un miroir. Au bout d'un an, les ingénieurs responsables des mines sont venus chez mes parents, demandant à mon père de redescendre la mine. Mon père, quand il entendait un avion passer le mur du son, mon père hurlait, il entendait l'explosion. Mon père a dit, je ne peux pas retourner à la mine. Alors, c'est monsieur Kuseda, qui a aidé mon père à avoir un dossier de retraite des mines, parce que les ingénieurs voulaient que mon père descende.
Voilà. Ça vient montrer un autre aspect terrible qui est la répercussion sur le corps de l'ouvrier et aussi sur le plan social. Tu as une réaction, Alain, à ce qu'on a entendu ?
Oui, ça me fait penser en fait à toutes les décisions de nos chers ministres quand ils essayent de renvoyer des gens qui sont à la retraite, retourner au boulot pour fournir le Moloch, là, la machine. Ça me fait penser un peu à ça, quoi. Forcer un gars qui a été traumatisé par la mine à reprendre du service. Là, on entend ça en ce moment beaucoup, à la place de leur foutre la paix un petit peu, parce qu'ils ont vécu des choses très, très difficiles.
Voilà. On va finir pour cette émission pour aujourd'hui. Tout ce que j'ai essayé de faire avec l'aide d'Alain ce soir, merci encore à toi, c'est de réfléchir à ces morts et du coup ces vies invisibles. J'essaye d'être dans les traces, à mon humble mesure, du boulot de Didier Fassin, qui travaille sur ce qu'il appelle les vies inégales dans notre monde néolibéral, capitaliste, patriarcal, raciste. Il y a des vies qui valent moins que d'autres. Là, on a beaucoup parlé du monde ouvrier. Semblerait-il que, oui, la vie des ouvriers et des ouvrières ne compte pas grand-chose face au rendement et face aux pressions économiques, face à l'avarice des puissants, des grands patrons. On va finir cette émission en écoutant une historienne de la société, une historienne qui travaille sur le travail et sur une historienne du social, qui va nous permettre dans la suite des émissions, d'aller vers ça, d'aller plutôt du côté de toutes ces maladies professionnelles, ces accidents du travail qui ont été cachés par le quotidien du capitalisme où il faut que ça tourne et peu importe la souffrance. Et on finira là-dessus et on finira par une dernière chanson de Bernard Lavilliers, Les Barbares. À plus tard et au revoir.
Bonsoir.
Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais commencer par remercier Didier Fassin, bien sûr, le remercier à double titre. D'abord, bien sûr, de l'invitation à parler aujourd'hui devant vous dans cette enceinte vénérable et de me confier l'ouverture de cette première session, de la partager avec Pascal-Marie Chalard. Et en second lieu, et c'est plus important encore, pour la source de réflexion que certains des travaux de Didier Fassin ont constitué pour moi, alors que je me mettais, il y a une dizaine d'années environ, à travailler sur la question des relations entre l'industrie naissante et les sociétés urbaines depuis le 19e siècle, et que je me plongeais, un peu par accident, dans les archives d'un secteur industriel méconnu, celui de la fabrication des peintures en bâtiment au 19e siècle, et partant sur l'histoire de la pathologie dont leur fabrication et leur usage ont été responsables et sont encore responsables aujourd'hui sous d'autres formes, à savoir l'intoxication par le plomb, également dénommé saturnisme. Naissance de la santé publique, c'est le titre de l'article que Didier Fassin publiait dans la revue Genèse en 2003 à propos de la réapparition, au milieu des années 1980, d'une épidémie de saturnisme infantile en région parisienne par l'intoxication des enfants par les écailles et poussières de peintures anciennes dans l'habitat insalubre. Cet article envisageait les transformations majeures de l'appréhension du saturnisme infantile en un temps très court, la modification des instruments de perception et du regard des acteurs, en particulier les médecins, en faisant exister, je cite, « une réalité jusqu'alors méconnue, celle de l'épidémie saturnine de la fin du XXe siècle ». Poil à gratter pour l'historienne que je suis que cette mention d'une réalité méconnue à la fin du XXe siècle, qui avait pourtant été connue à une époque antérieure, puisque en quelque sorte recouverte par un voile opaque, par un processus d'invisibilisation dont il fallait tenter de comprendre les déterminants. J'avais en effet le souvenir d'avoir rencontré dans des fonds d'archives et dans des lectures historiennes la question, souvent effleurée, jamais investiguée en profondeur, des poisons et produits chimiques qui affectaient gravement la santé des ouvriers d'industrie depuis le XVIIIe siècle au moins. Chapeliers saoulés par les vapeurs de mercure utilisées pour détacher les poils de peau de lapin et fabriquer le feutre des couvre-chefs. Ouvrières des fabriques d'allumettes dont les os de la mâchoire se nécrosaient sous l'effet des émanations de phosphore. Ouvriers cérusiers fabriquant le fameux blanc de plomb destiné aux peintures en bâtiment et peintres eux-mêmes s'effondrant dans des coliques atroces après quelques semaines de travail dans des nuages de poussière de plomb. C'est une pénible litanie des corps souffrant au travail, à l'évidence bien antérieure au processus d'industrialisation. Celui-ci, à compter des 18e et 19e siècles, n'a pas inventé, loin s'en faut, le risque au travail. Mais il a incontestablement exacerbé des risques préexistants et, dans le même temps, introduit des risques nouveaux, largement liés d'une part à la mécanisation croissante du travail, l'usage des machines, et d'autre part à l'utilisation de plus en plus massive de produits chimiques dans les procédés industriels.
Les barbares habitaient dans les angles tranchants des cités exilées au large du business. Ils rivaient leurs blousons d'étranges firmaments où luisaient la folie, la mort et la jeunesse. La nuit, l'eau fourneau mijotait ses dollars. La fumée ruisselait sur nos casques rouillés. Dans le vestiaire cradingue, 5 minutes volées. À la fumée, au feu, au bruit, au désespoir. Oh mon amour, emporte-moi. Emporte-moi loin de la zone. Vers des pays chagrins. Vers des pays faciles. Vers des pays dociles. Il rêvait les tropiques tropicaux. Plein d'eau à 30 degrés, plein de forêts sanglantes. Il rêvait de corail, d'amour, de sable chaud. Épinal leur fourguait ses images en partance. Le fils du patron venait nous visiter. Au sortir du nightclub avec de jolies femmes. Nous regardait faire, essayait d'estimer la montée de la courbe, la chaleur de la flamme. Oh mon amour, emporte-moi. Emporte-moi loin de la zone. Vers des pays chagrins, vers des pays faciles, vers des pays dociles. Bourgeois adolescents aux mythes ouvriers, militants acharnés de ce rêve qui bouge, qui serait un beau jour de gauche bien rangé. Tricolore et tranquille, la zone, c'était rouge. La noirceur des blousons nous faisait des étés sombres comme les fleurs de nos arbres acryliques. Nous déroulions nos chaînes essayant de décrocher la montée de l'amour, de la paix et de la musique. Le car avalait sa ration de 6 heures, de mains brûlées de silicose et de gros rouges. Nous rentrions vidés dans nos cuisines seules. Un sourire, un café, la douche, rien de bouge. La radio tapinait à l'étage inférieur. On dormait dans l'enzyme et dans le carrefour. Puis nos têtes plongeaient vers des mondes meilleurs. Nos mamans affairées voyaient baisser le jour. Oh mon amour, emporte-moi. Emporte-moi loin de la zone. Vers des pays chagrins, vers des pays faciles, vers des pays dociles. Habitaient dans les angles tranchants des cités exilées au large des business. Ils rivaient leurs blousons d'étranges firmaments où visaient la folie, la mort et la jeunesse. Oh mon amour, emporte-moi. Emporte-moi loin de la zone. Vers des pays chagrins. Vers des pays faciles, vers des pays possibles.